Bonsoir. Excusez-moi de vous réveiller. Merci d'être là. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Donc, Pôle Info Santé, qui a été créé il y a 21 ans déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Qui était là il y a 21 ans avec nous? Ah, professeur Corby. Vous y étiez? Oui, je n'en ai jamais douté. Pôle Info Santé donc est le fruit du partenariat, je vous le répète à chaque fois pour ceux qui viennent régulièrement, un partenariat entre le CHU, dont une des missions est l'éducation à la santé, et puis l'espace Mendès France, ce bel endroit qui est un centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous permettre à vous de pouvoir échanger, dialoguer avec des professionnels de la santé hospitalier, milieu hospitalier ou généraliste. Alors je vais vous présenter nos intervenants dans un instant, je vous rappelle que la thématique, c'est la prise en charge, les prises en charge modernes des maladies cardiovasculaires. C'est un peu le volume 2, en fait. Je ne sais pas si vous étiez avec nous il y a deux mois, mois d'octobre. Certaines personnes étaient là déjà? Et les petits nouveaux, alors? Bienvenue aux petits nouveaux. Vous allez pouvoir suivre, hein, théoriquement. Pas obligé d'avoir été au premier épisode pour voir le deuxième. C'est un petit peu comme une série américaine. À la fin, vous allez avoir, donc, à la fin des exposés de nos professionnels, vous aurez la possibilité de leur poser des questions. Alors je passerai vous voir, donc il suffira, comme à l'école, de lever la main et je vous tendrai le micro. Si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de parler dans le micro, il n'y a aucun souci, vous avez des petites feuilles qui sont fournies avec le dossier que vous avez et vous pouvez m'écrire tout simplement la question et moi je la lirai, je leur donnerai ensuite. Vous avez d'ailleurs aussi entre les mains les documents, c'est des documents qui résument un peu tout ce qu'on va se dire ce soir. Vous avez entre autres tous les diaporamas qui vont être diffusés, qui vont vous être expliqués par nos intervenants. Il y a aussi une fiche d'évaluation, alors elle est très importante, je le répète à chaque fois, cette fiche d'évaluation, parce qu'elle permet, elle nous permet de corriger, d'améliorer les rendez-vous sans cesse. 21 ans, on progresse grâce à vous, on essaye de faire toujours mieux, et on essaye que ce soit un rendez-vous qui soit à la fois convivial, mais instructif, où vous pouvez échanger avec les professionnels. Donc n'hésitez pas à remplir cette fiche, c'est très important, et à la remettre à nos hôtesses, elles seront là à la fin, il n'y a aucun souci. Alors, si jamais je vous passe le micro, ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste parce que ce qu'on fait là est enregistré. Tout ce qui va se dire ce soir est enregistré. Je salue l'équipe technique de l'Espace Mendès France, d'ailleurs. Et tout l'enregistrement va être posté sur les sites internet du CHU et de l'Espace Mendès France. Ce qui fait donc que vous pourrez réécouter tout ce qu'on s'est dit. Si vous avez loupé un truc, il n'y a aucun problème. Je vais aussi vous demander d'éteindre vos téléphones portables pour éviter qu'on ait des sonneries nous donne envie de danser plutôt que d'écouter. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à cette 113e édition de la conférence Pôle Info Santé, ici à l'espace Mendès France. Alors, je vais vous présenter les intervenants. Le professeur Pierre Corby, chef du pôle cœur-poumon vasculaire au CHU de Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Le professeur Luc-Philippe Christians, cardiologue du service médico-chirurgical cardiologie au CHU de Poitiers. Bonsoir. Le docteur Cécile Tolo, du service de médecine, alors angiologue, service de médecine vasculaire au CHU. Bonsoir.
Bonsoir.
Et le docteur Alexandre Chabrin, cardiologue libéral à Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vais vous donner la parole. Professeur Corby, c'est vous qui démarrez.
Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Donc, nous sommes là dans le prolongement de la présentation de ce nouveau pôle cardiovasculaire du CHU qui est ici, qui est une magnifique réalisation. On est très fiers. On vous l'a fait visiter pour ceux qui étaient là samedi, dimanche. On était très contents de vous voir. Ce bâtiment est magnifique. Hein, ça a été vraiment une très belle réussite, surtout au plan de la construction. On y fera dans ce bâtiment CCV, bien sûr, toute la pathologie cardiovasculaire dont on va parler ce soir. Mais il y aura aussi des activités complémentaires et qui sont très complémentaires, le traitement des maladies neurovasculaires, l'imagerie, on verra la transplantation rénale, l'insuffisance rénale et les réanimations. Donc on a concentré à la fois toute la pathologie cardiovasculaire et tout ce qui va nous servir et tout ce qui tourne autour, tout ce qui gravite pour traiter efficacement ces maladies cardiovasculaires qui sont... les maladies cardiovasculaires et le cancer, c'est un petit peu un concours, hein, quand vous dites que le meilleur gagne, c'est à celui qui sera le premier qui décimera le plus de population dans les pays de l'OCDE. Donc c'est quelque chose de très important. Donc qu'est-ce qu'on y fera? Alors bon, on va passer en revue les différents secteurs des maladies cardiovasculaires. En matière de coronaire, pour ce qui est de la chirurgie, ce qui nous concerne, on est de plus en plus sur les pontages sous artériels. On sait que l'usage des artères comme greffon est bien meilleur que les veines. mais surtout ce qui est à attendre des années à venir, et je parle de concert avec mon ami Luc, c'est l'imagerie coronaire. Hein. C'est-à-dire que de plus en plus, on est capable, en imagerie conventionnelle, en imagerie endo-coronaire, de définir ce qui va, ce qui ne va pas, et surtout, de concert avec nos amis coronarographistes, de proposer le meilleur traitement entre stenting, c'est-à-dire dilatation et pontage. Et vraiment, on ne peut pas concevoir cette activité actuellement sans une collaboration transversale. Et en ça, le bâtiment va être extraordinaire parce qu'on est vraiment sur les mêmes lieux. On est vraiment sur les mêmes lieux. Et c'est film par film, examen par examen, qu'il faut discuter sur tel coronaire. Qu'est-ce qui est mieux? Quelle est thérapeutique qui est adaptée? Et là-dessus, on en attend beaucoup. Sur les maladies de la valve aortique, c'est sans doute le secteur qui a connu le plus d'évolution et qui connaîtra le plus d'évolution dans les années à venir. On a tellement de types de procédés entre le remplacement valvulaire aortique classique avec les valves suturées, les opérations qui se font sous ministéronotomie, les opérations qui se font par voie percutanée ou par voie percutanée adaptée avec un petit abord chirurgical. En salle hybride, on a de plus en plus de solutions et on a finalement une solution pour chaque patient, âgé, à risque, pas à risque. Et ça c'est très intéressant. On en parlera sûrement un peu plus tard. Sur les maladies de la valve mitrale, on va sur ce projet vers de plus en plus de prise en charge par voie mini-invasive. Et on a vraiment l'intention, dans un avenir très proche, je pense de 12 à 18 mois, à passer là ici à la robotique et à des abords vraiment minimaux de cette chirurgie mitrale. De même pour les maladies de l'aorte, là, le fait qu'on soit rassemblés et qu'on puisse proposer une équipe transversale fait des chirurgiens vasculaires, des médecins vasculaires, des chirurgiens cardiaques, des cardiologues et même des radiologues, va nous permettre de combiner sur les salles hybrides ou autres à la fois des techniques endovasculaires où on passe dans un gros vaisseau et on va par l'intérieur mettre des prothèses, mais aussi à thorax ouvert, de compléter et de pouvoir maintenant proposer des traitements de toute l'aorte, de toute la crosse, que ce soit l'aorte ascendante, l'aorte transverse et l'aorte descendante, avec une prise de risque et un traitement le plus complet possible. Et ça aussi, c'est dû aux nouveaux équipements et à la création d'équipes transversales. Là, c'est l'assistance circulatoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui se développe, qui va se développer. Donc, nous sommes en mesure, et là, on va être pleinement opérationnel là-dessus, sur un patient qui serait en pré-mortem, quoi, vraiment sur un état de défaillance cardio-respiratoire tellement important, de lui implanter par voie externe dans les vaisseaux fémoraux ou parfois en intrathoracique une machine qui va lui assurer une circulation externe, un cœur artificiel externe, si vous voulez. Ça supplée à la fois la fonction pompe du cœur et la respiration. Et on peut même proposer aux équipes partenaires de Niort, d'Angoulême, de Saintes, voire d'ailleurs, sur leurs patients qui seraient dans ces états, d'aller les mettre sur place et de les ramener au CHU dans une de nos réanimations. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui se développe beaucoup. Et nous avons créé cette unité mobile d'assistance circulatoire il y a maintenant 5-6 ans. Elle est un petit peu limitée en fonctionnement. Et ça, maintenant, on va pouvoir aller un peu à fond là-dessus parce qu'on a vraiment maintenant la structure pour le faire. Et c'est quelque chose d'important. Si c'est un infarctus, par exemple, le patient est ramené sur le CHU, il est réanimé. À ce moment-là, il est accessible et soit il va vers une coronarographie dilatation ou alors plus tard sur des pontages. Et on peut ainsi sauver des vies et amener le maximum de traitement à ces patients. Mais les avancées ne sont pas uniquement techniques. Elles sont aussi dans le mode de prise en charge des patients. C'est-à-dire que de plus en plus, on conçoit pour un certain nombre d'examens ou d'interventions des hospitalisations d'une journée. Nous avons donc créé un hôpital de jour de 12 à 14 lits, qui sera ouvert à 12 lits d'abord. On va de plus en plus sur de la chirurgie ambulatoire, notamment en ce qui concerne la chirurgie vasculaire. On va de plus en plus sur des patients qui seront convoqués, non pas la veille, mais le jour de leur intervention, même pour des interventions assez lourdes, comme des remplacements de valve aortique. On va avoir une meilleure collaboration avec les réanimations, et ça c'est très important pour tous ces patients où les procédures sont de plus en plus multiples est de plus en plus complexe, avec des recours à la réanimation qu'on ne prévoit pas, mais là on a un plateau de réanimation extrêmement lourd, et du fait de la proximité de la transplantation rénale dans le bâtiment et de la technicité de toutes les équipes, on a déposé donc un dossier de greffe cardiaque et pulmonaire. Dois-je rajouter qu'on va en plus sûrement créer un centre d'accueil, un centre de prise en charge de la douleur thoracique l'hôpital de courte durée. Voilà un rapide panorama, je ne vais pas rentrer dans les détails pour essayer de laisser libre cours aux questions. Je vais passer la parole à Luc.
Merci Pierre. Bien effectivement, il y a beaucoup d'évolutions là-dedans. On va peut-être passer le diaporama. Avec donc, effectivement, il y a énormément de progrès et je suis très heureux de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui, parce qu'en cardiologie moderne, essentiellement, on va dire, hors médicaments, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais pour parler de ces différentes techniques, il faut bien considérer deux aspects. La cardiologie a énormément évolué sur le plan mondial ces 10 dernières années. Et elle va évoluer, elle a commencé à évoluer aussi de façon encore plus franche avec le développement du CCV maintenant, dans ces toutes dernières années, à Poitiers également. Et ça, il faut reconnaître que c'est très très intéressant pour tout le monde, pour la population, pour nous, pour les soignants et les patients. Alors la cardiologie moderne, c'est aussi plein de techniques, mais l'intérêt, c'est pas d'avoir beaucoup de techniques, c'est de pouvoir adapter la technique aux patients. Hein, et pas de faire la même technique pour tous les patients. Ça, c'est important. Et donc, pour adapter la technique aux patients, il faut avoir un grand panel de propositions possibles et une bonne concertation qui aille du médecin généraliste en passant par le médecin cardiologue de ville et puis le cardiologue hospitalier et puis le chirurgien cardiaque et que tout le monde puisse travailler ensemble. Et je vais prendre juste la télécommande. Si la technique veut bien suivre, voilà. Et je vais aborder juste 3 ou 4 thèmes différents sur les artères coronaires, donc les artères qui vascularisent évidemment le muscle cardiaque. Eh bien, il y a des progrès à la fois en diagnostic et en thérapeutique. Pour le diagnostic, c'est l'imagerie. On peut regarder maintenant les artères coronaires sans faire obligatoirement une coronarographie. Coronarographie, on passe par une artère du poignet ou de la fémorale et on va mettre des sondes jusqu'à l'entrée des coronaires pour les regarder. Maintenant, on peut, dans un grand nombre de cas, voir ces coronaires par l'intermédiaire du scanner ultra rapide. Et là, dans le cadre du CCV, nous avions déjà un scanner qui était performant. Maintenant, on a un scanner ultra performant puisqu'il couvre toute la hauteur du cœur en un seul passage, ce qui nous donne des possibilités différentes. Donc, on peut très bien voir les artères coronaires par l'extérieur, juste sur un examen scanner pour lequel vous venez en ambulatoire. Et puis, quand c'est plus compliqué, quand il y a des choses un petit peu plus fines à discuter, eh bien, on peut aller à la coronarographie, bien sûr, mais on peut aussi ne pas rester à l'entrée de l'artère, mais aller dans l'artère et la regarder de l'intérieur, ce qu'on fait avec l'imagerie qu'on appelle OCT, qui permet de voir tout à fait bien la lumière de l'artère, l'endroit où passe le sang, et puis la petite plaque qui commence à faire un rétrécissement sur cette artère. Et c'est tellement précis qu'on voit même l'émail des stents. Ces stents, c'est ces structures en métal qui sont faites pour étayer l'artère et éviter que le rétrécissement ne revienne une fois qu'on a dilaté avec le ballon dans l'artère coronaire. On met maintenant, dans 99% des cas, un stent lorsqu'on fait une dilatation. Les progrès thérapeutiques là-dedans, c'est que les stents maintenant ne sont plus simplement du métal, mais il y a du médicament dessus pour éviter qu'il y ait des problèmes de cicatrisation et donc de resténose. Et puis les progrès aussi, c'est que maintenant, on remplace l'acier ou le métal par une autre structure qui font que ces stents peuvent se résorber au fil du temps et récupérer une artère quasi normal, et ça, c'est aussi des progrès importants. D'autres progrès, maintenant, on aspire les caillots. Quand on fait un infarctus et que l'artère est bouchée, on peut aspirer ce caillot et libérer l'artère. On peut faire de la fraise, comme chez le dentiste, pour pulvériser le calcaire dans l'artère. Tout ça sous une anesthésie locale, il n'y a pas de douleur particulière, hein, c'est dans l'artère, ça ne fait pas mal. Et évidemment, il y a eu beaucoup de progrès de recanalisation des artères coronaires occluses, celles qui sont bouchées depuis un an, six mois, et qu'on veut réouvrir. On a maintenant tout un panel de possibilités où on peut essayer de réouvrir ces artères avec de bons résultats. En ce qui concerne les valves, Pierre Corbi vous en a discuté déjà un petit peu. Les grands progrès, c'est ça, c'est de pouvoir s'occuper. Moi, si on m'avait dit, même il y a une quinzaine d'années, que j'allais pouvoir mettre des valves à la place de la valve aortique calcifiée du patient, j'aurais dit non, ça me paraît impossible. En fait, c'est possible depuis 2002. La première mondiale, c'est 2002. Et on fait ça sur le CHU de Poitiers depuis 2013 maintenant. En collaboration évidemment avec les chirurgiens, puisque on va dire qu'il y a 80% des cas, on peut passer par l'artère fémorale, donc sous anesthésie locale. On remonte à l'inverse du flux jusque la valve aortique lorsqu'elle est calcifiée, serrée, qu'elle ne s'ouvre pas. Et on peut mettre en place deux types de valves, une sur un ballon et on expand cette valve et ça permet de l'ouvrir, ou l'autre, elle s'ouvre toute seule, un petit peu comme un bouchon de champagne. Et c'est... ça permet de libérer le patient de ce problème d'obstacle à la sortie du cœur, et la durée d'hospitalisation pour une intervention, c'est entre 3 et 6 jours. Vous voyez qu'il y a des patients qui ont ça le matin et qui ne restent même pas 24 heures aux soins intensifs et qui sont libérés assez rapidement. Donc ça, c'est un vrai progrès. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à des patients qui sont à haut risque chirurgical, des patients âgés, fragiles, sur lesquels, c'est très souvent le cas, il y a cette pathologie de la valve de l'aorte. Autre progrès, autre valve, c'est la valve mitrale, donc entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. C'est cette valve qui a pour problème assez fréquemment de fuir, d'avoir une insuffisance mitrale, et le sang ne va pas donc toujours dans la bonne direction. Eh bien, dans ce cas-là, lorsque le patient n'est pas opérable, parce que le risque est important, eh bien, on met en place, en passant par une veine, on arrive dans l'oreillette droite, on tourne à droite, hop, on arrive dans l'oreillette gauche, on franchit la petite cloison, là, on l'ouvre, hop, et on revient vers la valve mitrale pour mettre une petite pince à linge, un petit clip qui va faire en sorte que vous allez faire pouvoir resserrer un petit peu cette valve avec ce petit clip qui est ici. Et ça permet, là aussi, hein, c'est des techniques relativement récentes, qui ont eu des petits problèmes au départ et qui maintenant sont vraiment devenus majeurs, c'est-à-dire qu'elles sont bien mises en place, bien sécurisées, et puis on le fait ça depuis cette année, on fait ce genre d'intervention. Là encore, ça ne remplace pas la chirurgie, mais c'est une aide, c'est une possibilité pour les patients qui ne peuvent pas être opérés ou pour lesquels le risque paraît important. Troisième grande évolution, c'est que vous savez qu'il y a de plus en plus de monde qui est en arythmie cardiaque. Plus on est âgé, plus on risque d'avoir une arythmie cardiaque. Et que l'arythmie cardiaque, ça pose des problèmes parce que on fait des caillots. Les caillots de sang dans l'oreillette. Quand c'est dans l'oreillette, ça pose pas de problème. C'est quand ça s'en va. Ça donne une hémiplégie. Ça donne un accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est dramatique. C'est très souvent dans cette situation-là, dans ce petit caillot, il se met ici, dans l'auricule gauche, un petit cul-de-sac qui dépend de l'oreillette gauche et qui ne sert pas à grand-chose, sauf à poser des problèmes de caillots, justement, lorsque le cœur passe en arythmie. Et bien maintenant, lorsque les patients ne peuvent pas être traités au long cours par des anticoagulants, parce qu'ils ont des problèmes d'hémorragie, eh bien on passe, là encore une fois, par une veine, un petit dispositif qui vient obturer ce cul-de-sac qui ne sert à rien, sauf à poser des problèmes. Et on développe donc cette activité, là aussi, pour rendre service aux patients lorsqu'ils sont peuvent pas avoir d'anticoagulation. Et enfin, en rythmologie, pour faire un petit peu un balayage des différentes valves coronaires et rythmologie, donc le problème du rythme du cœur, là aussi des progrès diagnostiques et thérapeutiques. Diagnostiques parce qu'on a de plus en plus des cartographies, non pas simplement pour voir la morphologie du cœur, mais son activité électrique. Et on peut superposer la morphologie du cœur, les artères, et puis l'activité électrique pour savoir où il faut intervenir, où le rythmologue doit intervenir pour essayer de casser, d'arrêter un court-circuit électrique. Et donc, ça se développe de façon très, très importante. Autre progrès, on va dire, la télécardiologie. La télécardiologie, on vous met un stimulateur cardiaque. Plutôt que de vous faire venir à l'hôpital pour surveiller que votre stimulateur cardiaque fonctionne, vous avez un petit boîtier chez vous, c'est transmis à l'hôpital, et le rythmologue peut regarder ce qui se passe. Il y a des alarmes qui se mettent en route automatiquement, et puis on peut surveiller ça comme ça. Enfin, Dans le problème des troubles du rythme, encore une fois, hein, ces troubles du rythme, l'arythmie qui vous donne des problèmes de palpitations vraiment importantes, eh bien, il y a des procédures maintenant d'ablation de fibrillation atriale. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'on a un gros progrès à la fois d'imagerie et de technique. L'imagerie, ça, c'est du scanner. Et là-dessus, les petits points, eh bien, on superpose l'activité électrique, les petits points de tir pour essayer de casser les anomalies électriques, et ça vient de ce fait-là, court-circuiter tous ces problèmes, justement, de court-circuit électrique qui posent ce problème de palpitation. On peut faire du laser pour enlever les sondes de pacemaker, on peut mettre des stimulateurs cardiaques sans sonde maintenant avec ce tout petit dispositif qui va se mettre dans le ventricule droit, on peut faire des progrès également pour les processus, les phénomènes où on a besoin d'avoir un défibrillateur, c'est un stimulateur qui va donner un choc électrique interne pour les patients qui font des troubles du rythme grave. Cette fois-ci, sans sonde endocavitaire, on met tout ça sous la peau et ça fonctionne quand même, donc sans accès complet au niveau du cœur, ce qui simplifie et ce qui évite d'autres soucis. Voilà, c'est juste une petite diapositive, un petit diaporama sur les progrès, encore une fois, en cardiologie. Le gros intérêt, c'est d'avoir une chose, c'est bien voir ce qu'on veut voir pour bien travailler, bien discuter avec toute l'équipe médicale pour pouvoir adapter le meilleur traitement aux patients. Je vous remercie.
En bas à droite, là, c'est pas le prix. Hein. C'est la
c'est pas le prix. C'est pas le prix. C'est le chef de pôle là qui parle. C'est pas le prix. Voilà, oui, c'est pour la dimension.
C'est pour la dimension. Oui. Ça, c'est pour avancer. Ça, c'est le vert pour.
Cécile. Oui, je te mets, vas-y. Excuse-moi, je t'ai.
Donc, bonsoir à tous. Donc, Cécile Tolot, je suis médecin vasculaire au CHU de Poitiers. Donc, angiologue ou médecin vasculaire, enfin, maintenant, on dit plutôt médecin vasculaire qu'angiologue. Je vais un petit peu faire mon exposé à la fois sur les différentes facettes, on va dire, de notre discipline. C'est-à-dire, il y a à la fois de la prévention de notre discipline et donc du dépistage. Il y a également une partie traitement. Alors, je n'insisterai pas beaucoup sur les traitements, mais en particulier quand même sur un, vous verrez. Et puis, tout ce qui est diagnostic et suivi. Et vous verrez, dans ce que je vais vous présenter, il y a beaucoup de choses qui se font en étroite collaboration avec les chirurgiens vasculaires, puisque nous travaillons tout le temps ensemble. Et ils ne seraient rien sans nous, et nous, on ne serait rien sans eux. Alors, dans le dépistage, je vais insister un petit peu sur deux dépistages qui me paraissent importants, qui seront faits au CCV, qui ne sont pas forcément faits à l'hôpital, hein, qui ne sont pas non plus forcément faits par un médecin vasculaire. Ça peut être fait par un cardiologue, ça peut pour certaines fois être fait par un radiologue ou un médecin généraliste. Alors, le premier dépistage, c'est l'anévrisme de l'aorte abdominale. L'aorte abdominale, c'est le gros tuyau que vous avez, la grosse artère que vous avez au niveau du ventre. Et quand elle se dilate de façon trop importante, la dilatation, quand elle atteint plus de 30 mm, c'est ce que l'on appelle un anévrisme. Cet anévrisme, il continue à grossir régulièrement, et le souci, c'est qu'on ne sait pas comment il peut évoluer. C'est-à-dire, il peut prendre 10 mm en un an, comme il peut prendre que 2 ou 3 mm. Donc, il est important de dépister ces anévrismes, puisque, hélas, quand ils grossissent de trop, l'aorte finit par se rompre, et dans ces cas-là, il y a plus de 80% de mortalité. Donc les facteurs de risque, c'était essentiel, c'est l'âge, le tabac et l'hérédité. Et donc on a un moyen très simple de faire le dépistage, c'est de faire une échographie, un échodoppler abdominal, donc qui est fait à la fois par les médecins vasculaires ou par des cardiologues ou par des radiologues. L'échographie, c'est totalement anodin, indolore. On vous met du gel sur le ventre, on prend notre sonde d'échographie et on mesure votre aorte. Alors il faut savoir que depuis 4 ans maintenant, ce dépistage, il est recommandé pour tous les hommes âgés de 65 à 75 ans qui sont fumeurs ou qui ont fumé. Et puis tous les hommes de 50 à 75 ans qui ont des antécédents familiaux d'anévrisme de l'aorte. Donc, toute cette population ciblée, peut bénéficier d'un dépistage. Il suffit de demander à votre médecin traitant de vous adresser ou à un médecin vasculaire ou à un cardiologue ou à un radiologue. Et donc il est important parce qu'on meurt encore trop souvent d'anévrisme de l'aorte abdominale. Autre dépistage sur lequel j'insisterai un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou plus communément appelée artérite. Alors c'est une pathologie qui est largement sous-diagnostiquée, puisqu'il y a plus de 2 400 000 patients qui sont atteints de cette pathologie, et il y en a seulement 800 000 qui sont déclarés en ALD pour cette pathologie. Donc ça veut dire qu'il y en a plus de 2/3 qui ne sont pas pris en charge de façon correcte. Pourtant, l'artérite, c'est un marqueur de la maladie athéromateuse, et c'est un marqueur du risque cardiovasculaire, parce que quand vous avez une atteinte artérielle au niveau des jambes, vous avez une atteinte artérielle au niveau du cœur, vous avez une atteinte artérielle au niveau des artères qui vont vasculariser le cerveau. Donc il y a un moyen très simple de diagnostiquer une artérite, c'est de faire ce qu'on appelle un index de pression systolique. Alors, même chose, ça peut être fait par votre médecin généraliste, par votre cardiologue, par votre angiologue. On vous prend la pression artérielle au niveau de vos deux jambes et on la compare à la pression au niveau du bras. Normalement, vous devez à peu près avoir la même pression. Donc on fait le rapport de la pression au niveau de la cheville sur la pression au niveau du bras. Et normalement, ça doit être égal à 1. Si cette pression est inférieure à 0,9, ça veut dire que vous êtes artéritique, que vous avez une artérite. Donc il faut vous prendre en charge de façon correcte. Donc vous voyez que c'est un dépistage qui est très simple et qui est trop rarement fait. Nous, on voit trop souvent des gens arriver à l'hôpital au stade d'artérite avancée avec ce qu'on appelle des troubles trophiques ou des nécroses d'orteils ou des choses comme ça parce qu'ils n'ont pas été pris en charge assez rapidement. Donc voilà un petit peu les deux thèmes de dépistage que je voulais aborder. Donc c'est la même chose, il faut savoir que tous les hommes qui ont plus de 50 ans ou toutes les femmes qui ont plus de 60 ans et qui ont au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire, dont un majeur, alors le majeur c'est le tabac ou le diabète, peuvent bénéficier de ce dépistage. Alors, dans les traitements, donc au niveau médicamenteux, je vais brièvement vous parler des nouveaux anticoagulants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces nouveaux anticoagulants oraux directs. On en parle beaucoup dans les médias. Alors, ces anticoagulants, ils ont à la fois un confort d'utilisation pour le patient et un confort de prescription pour le médecin, puisque ce sont des anticoagulants, il n'y a plus besoin de surveillance par prise de sang. Si certains ont pris des antivitamines K, par exemple, sont des médicaments, vous êtes obligé de vous faire une prise de sang tous les mois, voire plus souvent. Ces médicaments-là, ces nouveaux anticoagulants oraux directs, n'ont plus besoin d'avoir un suivi biologique régulier. Alors c'est très bien, c'est très confortable, mais il ne faut quand même pas oublier que ce sont des anticoagulants et que ce n'est pas du Doliprane ou de l'Efferalgan ou de choses qu'on prend comme ça. Et je trouve qu'actuellement, on a trop tendance à oublier que ce sont des anticoagulants. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'antidote spécifique, enfin à part pour un maintenant, mais il n'y a pas d'antidote spécifique pour ces médicaments, qu'il y a un risque de moins bonne observance parce que ce sont des médicaments qui ont pas de suivi au niveau prise de sang et qui ont des schémas de posologie un petit peu complexes, donc peut y avoir des confusions. Donc pour moi, il me paraît essentiel qu'il y ait à la fois un carnet de suivi, c'est-à-dire que les patients aient un carnet, ils prennent des anticoagulants et on suit les doses et on discute avec eux, et puis une évaluation régulière de la fonction rénale, parce que ces médicaments, ces nouveaux anticoagulants oraux, il y a quand même une contrainte, c'est qu'il faut avoir une fonction rénale qui soit correcte. Et donc il faut qu'elle soit évaluée de façon régulière. Et il faut, à mon avis, tous les gens qui sont sous anticoagulants, qu'ils aient au moins une séance d'éducation thérapeutique. Ça se fait dans beaucoup de pays, ça se fait pas assez souvent en France, et j'espère qu'au centre cardiovasculaire, on pourra faire de l'éducation thérapeutique sur les anticoagulants. Alors, autre traitement, donc tous les traitements dont je vais vous parler maintenant, ce sont des traitements, alors celui-là est fait ou par les chirurgiens vasculaires ou par les médecins vasculaires ou par les deux à la fois, je vais vous expliquer pourquoi. Les autres sont faits par les chirurgiens vasculaires, mais c'est nous qui adressons les patients et c'est nous qui les suivons après. Donc le traitement endovéneux, c'est un traitement pour les gens qui ont des varices et qui ont des varices symptomatiques. C'est un traitement que l'on propose depuis quelques années. Donc on va introduire un petit peu sous le genou une sonde dans la veine. Alors c'est des veines, c'est pas les veines profondes, hein, c'est les veines superficielles, les veines qui font les varices. Et ces sondes, elles sont équipées ou d'un laser ou d'une radiofréquence et elles vont aller par l'intérieur chauffer la veine et donc faire une coagulation et faire une fibrose et donc traiter votre varice. Donc c'est une, c'est une, un traitement qui se fait sous échographie, c'est-à-dire que soit le chirurgien vasculaire fait à la fois l'échographie et le geste opératoire, soit il est accompagné d'un médecin vasculaire, lui il fait le geste et nous on suit son geste par échographie. Alors ce traitement, il a 90% de succès, donc la chirurgie conventionnelle classique se fait encore, mais ce traitement-là, il est applicable pratiquement pour tout le monde. Et puis il se fait en ambulatoire, c'est-à-dire vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Donc pour les gens, notamment les gens actifs, il y a 2 jours d'arrêt de travail et plus 1 mois comme il y avait pour les strippings par exemple. Donc c'est un traitement qui marche bien et qui est très séduisant. Autre traitement, alors ça qui est fait uniquement par les chirurgiens vasculaires, mais nous suivons ces patients après, c'est pour ça que je vous en parle. Tout à l'heure, en début d'exposé, je vous ai parlé de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Quand l'anévrisme est vraiment trop important, quand il fait plus de 55 mm, il faut le traiter. Donc soit par une chirurgie conventionnelle classique, soit par une chirurgie endovasculaire. Ces chirurgies endovasculaires, donc le chirurgien vasculaire, vous fait 2 incisions au niveau des plis de laine, et arrive à introduire dans l'aorte ce qu'on appelle une endoprothèse, où le sang va circuler dedans et ne circulera plus dans l'anévrisme. Donc cette technique, elle se fait déjà depuis plusieurs années, elle fonctionne très bien. Il y a juste une contrainte, c'est qu'après le patient, il faut qu'il soit suivi régulièrement par son médecin vasculaire, parce que l'endoprothèse, comme vous le voyez, elle se fixe par des petits crochets à sa partie supérieure, et donc il faut qu'on vérifie régulièrement qu'elle n'a pas bougé et qu'il n'y a pas de fuite entre l'endoprothèse et l'anévrisme. Donc la seule contrainte, c'est le suivi annuel chez un médecin vasculaire. Alors au départ, on suivait ces endoprothèses que par scanner. Maintenant, avec nos nouvelles techniques d'échodoppler, et notamment les échodopplers avec injection de produits de contraste, on peut suivre les endoprothèses aortiques, alors abdominales, hein, pas thoraciques, par la technique d'échodoppler avec produit de contraste. Autre traitement que les chirurgiens vasculaires font maintenant de façon courante, c'est les angioplasties et les stents artériels. Alors les angioplasties, c'est le chirurgien vasculaire met, alors souvent pareil, par le pli de laine, un petit guide avec un ballon. Il dilate la lésion et puis, si la lésion le nécessite, il laisse en place ce qu'on appelle un stent. Alors, ça fait assez longtemps quand même que cette technique existe, mais il faut savoir que maintenant, les chirurgiens vasculaires peuvent traiter des lésions complexes avec cette technique. Avant, on traitait des lésions assez courtes ou des lésions pas très calcifiées. Maintenant, ils traitent des lésions assez longues, complexes, et ils peuvent aller dans les petites artères, notamment les artères au niveau des jambes sous le genou. Avant, c'était des lésions assez proximales qu'on traitait. Donc c'est des techniques, l'endovasculaire, au centre cardiovasculaire, va se développer, je pense, énormément, et c'est des techniques qu'on va voir de plus en plus. Pour terminer, les explorations, donc nous, l'appareil qu'on utilise tous les jours, qui est un prolongement de notre consultation, c'est l'échographie Doppler. On a assisté depuis quelques années à un grand développement de ces appareils, à la fois, d'un point de vue esthétique, puisque quand je suis arrivée, il y a une quinzaine d'années, on avait des appareils qui faisaient presque 1 mètre carré, et que maintenant, on peut avoir des appareils qui, enfin, dans quelques temps, qui seront pas plus gros que vos téléphones portables. Et puis, on bénéficie également maintenant d'appareils qui ont toute leur plateforme est faite sur un écran tactile, donc ce qui est à la fois beaucoup plus pratique pour nous et pour des questions d'hygiène, notamment hospitalière, c'est beaucoup plus pratique puisque ce sont des appareils maintenant qui vont souvent au bloc opératoire, donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir des écrans tactiles. Donc les échodopplers, l'échographe nous sert à la fois au quotidien, nous sert, comme je vous le disais tout à l'heure, pour, par exemple, un éco-guidage auprès du chirurgien quand on fait un traitement endovéneux des varices, puisque le chirurgien a besoin qu'on le guide par échographie. Donc ces appareils nous servent vraiment au quotidien. Et puis les développements un petit peu de techniques éco-doppler, c'est à la fois l'éco-doppler avec produit de contraste, dont je vous en parlais tout à l'heure. On vous met juste une petite perfusion au pli du coude et on vous injecte un produit. Ça nous permet, nous, de suivre, par exemple, les endoprothèses aortiques, mais ça nous permet, par exemple, si on vous trouve des dépôts au niveau des carotides, d'aller voir si ces dépôts sont à risque de se fragmenter et d'aller migrer au niveau du cerveau et de faire un accident vasculaire cérébral. Ça nous permet de dire si c'est des plaques carotidiennes stables ou instables. Donc nous, on s'en sert également pour ça. Donc ça nous apporte énormément. Les autres techniques en développement, c'est ce qu'on appelle l'élastographie. Donc c'est toujours au niveau de l'échographie, c'est des logiciels particuliers qui nous permettent de mesurer la dureté d'une plaque ou la dureté d'un caillot et de dire pareil si cette plaque est à risque de migrer ou pas, ou si ce caillot est récent ou ancien, notamment dans les phlébites. Alors les grosses phlébites, hein, pas les phlébites distales, mais les phlébites proximales, on arrive à mesurer la dureté du caillot et dire si c'est une phlébite récente ou pas. Voilà un petit peu donc notre activité de médecin vasculaire au quotidien. Je vous remercie.
Pas du tout.
Mon cher Alex, au contraire, tu me flattes.
Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Chabrin, je suis cardiologue en ville. Je fais un tout petit aparté au début pour vous dire que je suis très content d'être là. Entre autres, la dernière fois que j'étais aux côtés de Luc Christian sur une scène, sur une estrade comme ça, c'était il y a 15 ans et en fait on jouait au théâtre. On jouait une pièce qui s'appelait Un air de famille. Eh oui, on a joué à Chevigny et à Poitiers. Voilà. Donc, ce soir, la prise en charge moderne des maladies cardiovasculaires. Donc moderne, j'ai essayé de réfléchir un petit peu sur ce qu'on entendait par moderne. Moderne, en fait, il y a pas mal de choses. Le synonyme le plus proche, c'est actuel. Actuel, c'est ce qui est permis par la technologie. En fait, en France, on est quasiment tout le temps soigné de façon moderne. On bénéficie toujours des techniques les plus actuelles. Là, vous avez eu avant trois exemples, avec trois exposés, avec l'ensemble des techniques les plus modernes, les plus actuelles. Moderne, en fait, c'est aussi ce qu'on peut opposer à ancien. Alors, j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Une prise en charge ancienne. Comment est-ce qu'on prenait avant en charge les maladies? Alors, appliqué à la cardiologie, j'ai résumé ça de façon très rapide. J'ai noté trois choses un peu modernes opposées à anciens dans la façon de prendre en charge la maladie. Le plus simple, c'est l'information. Maintenant, on est informé. Vous êtes là ce soir, vous informez. Il y en a qui sont malades, d'autres non. Mais déjà, cette façon de regarder la maladie, c'est quelque chose de moderne, en tout cas de différent de ce qui se faisait avant. L'autonomisation, c'est ce qu'on appelle maintenant être le patient autonome. C'est tout ce qui concerne l'information, le consentement. Donc ça, vous voyez bien qu'à l'hôpital, dans les médias, on parle beaucoup de ça, de l'autonomie. Ça, c'est quelque chose de nouveau, de moderne. Dernière chose, la prévention. La prévention, c'est avant d'être malade. Si je résume un petit peu avant, on vivait, un jour on est malade, ensuite on se soigne. Ça, c'est la médecine curative. En France, on a toujours été très fort, les médecins ont été très forts en médecine curative. Ce qui est un peu plus nouveau et un peu plus compliqué, c'est la prévention. Alors, ce n'est pas actuel de maintenant, ça fait un moment qu'on en parle de la prévention. Mais le problème de moderne, c'est aussi quelque chose de flou, parce que moderne, ça n'a pas tellement à voir avec la chronologie. Par exemple, pour les historiens, moderne, c'est les temps modernes, c'est de la Renaissance à la Révolution. Bon, vous voyez que moderne, c'est quelque chose d'un peu fluctuant. Ce qui est moderne maintenant, c'est ces trois choses qui font partie de la prise en charge de la maladie. Diapositive. Deux diapositives très brèves pour vous rappeler en fait l'activité en ville. Comment se passe la venue chez un cardiologue? Alors bon, il y a trois grandes façons en dépistage, c'est-à-dire que soit systématique, le médecin envoie chez le cardiologue pour un avis. Dépistage en fonction de symptômes que vous allez décrire à votre médecin. La prise en charge des facteurs de risque, hypertension, tabac, cholestérol, diabète. Et puis, ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est une fois qu'on est malade, sur le plan cardiaque, le suivi au long cours, les traitements, les surveillances. Ça, c'est le suivi des maladies cardiovasculaires qui se fait aussi bien à l'hôpital qu'en ville. évidemment, on est en ville plus nombreux, donc on suit plus de maladies en seconde intention. Diapositive. Les examens complémentaires, brièvement aussi, des examens qu'on fait en ville, quand je dis en ville, le plus souvent, c'est à la polyclinique, pour ces examens qu'on appelle non-invasifs. Tous les examens invasifs, coronarographie, scanner, etc., exploration rythmologique, sont faits, donc vont être faits maintenant au nouveau centre cardiovasculaire. En ville, deux grandes catégories d'examens, les examens de repos, l'échographie, l'électro, le holter cardiaque, l'enregistrement, le rythme, la pression artérielle, et les mêmes examens à l'effort, l'électro d'effort, c'est le test d'effort, avec la scintigraphie, c'est la médecine nucléaire, etc. Diapositive. Donc la grande question que moi je me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut éviter les maladies cardiovasculaires? Si on peut, comment? Parce qu'en fait, les maladies cardiovasculaires, elles ont cette particularité, c'est qu'on peut... Enfin, il y a deux choses. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas agir. C'est le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est le vieillissement. Une partie des maladies sont amenées par le vieillissement. Donc là, on ne peut pas lutter. Et puis, il y a quand même une grande partie des maladies qui sont accessibles à des modifications. Parce que vous avez des maladies, des cancers, des lymphomes, des choses, ça tombe comme ça brutalement, il n'y a pas de cause, et c'est la loterie, alors on est tous pareils là-dessus. On ne peut pas jouer là-dessus. En maladie cardiovasculaire, il y a une partie des causes sur lesquelles on peut agir. Alors, on n'agit pas facilement, parce que ces causes-là, vous allez m'entendre parler, les facteurs de risque, hypertension, le tabac, le cholestérol, c'est des habitudes. Et ça, modifier des habitudes, c'est difficile. Mais c'est aussi la prise en charge moderne, justement, de ces problèmes cardiovasculaires. C'est qu'on peut, dans une certaine façon, quand même, agir dessus. Diapositive. Ce poster, alors c'est le poster qui a le plus que les patients regardent le plus dans mon cabinet. Il y a des photos très belles d'artères, de choses... en gros plan, etc., qui n'intéresse que les enfants. Mais là, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. C'est les habitudes, notamment sur l'alimentation. Ça concerne les patients qui ne relèvent pas d'un régime particulier, notamment le diabète ou le cholestérol. Ça, c'est pour tout le monde, en fait. Alors, ça, vous le trouvez sur Internet. C'est très intéressant. J'ai mis en dessous le test Excel. Alors, ça, c'est aussi intéressant pour évaluer la consommation de sel. Alors là, ça va concerner les patients hypertendus. Ça concerne aussi les patients insuffisants cardiaques, mais là, il y a une prise en charge encore plus spécifique de l'insuffisance cardiaque par le réseau à l'hôpital, le RADIC. Le test Excel qu'on peut faire sur Internet, ça permet d'évaluer la consommation excessive, c'est-à-dire qui dépasse 12 grammes par jour. Je vous passe les détails statistiques, mais c'est quand même c'est un truc qui a été validé, qui permet de voir si on a une consommation excessive. Donc c'est intéressant pour les patients hypertendus et même pour tout le monde. Puisque le fait de manger peu salé, c'est quand même une bonne habitude. C'est validé avec l'amélioration de la mortalité, de l'activité physique. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, qui n'est pas facile à faire, parce que modifier des habitudes, c'est compliqué. Diapositive. Là, c'est ce qu'on trouve aussi, notamment pour le sport. Alors là aussi, c'est assez moderne, parce qu'on n'imagine pas, il y a 40 ans, les gens se posant des questions sur le sport. Le sport, ça n'existait pas. Enfin, il y avait les sportifs. Et puis, toutes les autres personnes ne faisaient pas d'activité physique. Maintenant, ça rentre quand même. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la pratique courante. Les règles de base sur quand on fait du sport et qu'on doit demander à son médecin ou à son cardiologue, bon, que des choses assez évidentes. Toujours pareil, les symptômes, on doit en parler et pas attendre d'avoir vraiment... des choses très gênantes, mais des symptômes notamment qui nous paraissent bénins ou qui ne paraissent pas graves, notamment à l'effort, c'est toujours quelque chose d'important à signaler au médecin. Ce qui arrive à l'effort, généralement, est plus grave que ce qui arrive au repos. Donc, c'est quelque chose qui doit alerter. Ce qui est important aussi, quand on est malade, c'est de ne pas faire d'activité physique. Ça, c'est pour les vrais, pour les sportifs et ceux, les acharnés. Quand on a la grippe, toujours attendre. D'être guéri pour refaire une activité physique soutenue. Diapositive. Pour finir, là on pourrait aussi, ça pourrait être très long, la médecine, quand on parle de médecine moderne, on parle de médecine connectée, médecine de demain. Alors que là, très vaste, parce que vous avez à la fois quelque chose de très grand public comme les objets connectés, avec pour la santé les objets connectés de santé, tensiomètres connectés, les pèses personnes, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Leur nombre explose. Hein. Il y en a, en 2020, il y aura 5 milliards d'objets connectés en France. Pour le moment, il y a 50 000 objets connectés de santé. Donc il y a une progression exponentielle. C'est vraiment... qu'est-ce qu'on va en faire? Ça aussi, là, c'est flou. Parce que tout ça, on parle de capteurs, on parle de données. Bon, les usagers sont prêts, c'est-à-dire que les jeunes et les jeunes médecins sont formés là-dessus. Ça, ils connaissent. Est-ce que ça va avoir des bénéfices pour les patients? Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Ce qui va concerner la médecine, c'est la télémédecine. La télémédecine, c'est pas nouveau du tout. La télémédecine, c'est ce qu'on appelle, c'est la médecine à distance. Alors maintenant, on en parle beaucoup parce qu'il y a des moyens techniques. C'est en fait très compliqué et très coûteux. Il y a 5 items. Vous avez consultation, expertise, régulation, assistance, monitoring. En cardiologie, on a le dernier point, le monitoring, qui se fait de façon courante, notamment pour les prothèses cardiaques, les pacemakers et le défibrillateur. Pour les plus récents, il y a un monitoring qui se fait de façon automatique, à distance, avec un appareil de transmission chez le patient. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Après ça, la télémédecine, c'est des projets qui sont en cours, ça coûte cher. Bref, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est en cours, notamment en Poitou-Charentes, avec l'insuffisance cardiaque, notre collègue Benoît Lequeux travaille et fait des protocoles justement sur les signes de l'insuffisance cardiaque qui sont récupérés par des tablettes. Et là aussi, il y a une implication très forte du patient, indispensable pour que ce soit fiable. Ce qu'on attend, un bénéfice sur la mortalité ou sur le nombre d'hospitalisations, n'est pas encore parfaitement validé. Les études sont contradictoires, mais c'est quelque chose néanmoins qui va se développer. Et que vous verrez, voilà, les big data, c'est quoi? C'est la notion d'énormes données, notamment dans les études, qui ne vont faire que croître. L'activité clinique, c'est vraiment la big data. Une consultation d'assurance cardiaque, c'est 100 variables. Bref, c'est quelque chose. Une semaine, une hospitalisation, c'est 1000 variables par jour. Bref, là, on est dans quelque chose de très flou, avec d'énormes enjeux qui dépassent complètement la santé. Puisque là, il y a des acteurs industriels, etc., qui entrent en jeu. Les méthodes modernes d'enseignement, alors en pratique, c'est la réalité virtuelle, la simulation, c'est des choses qui se font maintenant couramment. Et voilà, donc pour terminer, moi je retiens la notion qu'il faut... C'est terminé, au niveau du diapo. Il faut faire de l'activité physique. Donc, il faut changer les habitudes. Et ça, c'est difficile. Mais c'est le côté moderne, je trouve, de la prise en charge maintenant de la maladie par les médecins, mais surtout par le patient. Merci.
Merci beaucoup à vous quatre. Vous pouvez les applaudir si vous voulez les applaudir. Parce que je pense qu'ils étaient très, très clairs. Je vais venir vers vous maintenant. Je vais me déplacer. Je vais faire un peu de sport. Parce que j'ai vu qu'il y avait une paire de baskets, donc c'était pas pour manger. Hein. C'était. Oui, c'est bien. Rappelez-moi. Donc vous levez la main. Je viens vers vous si vous avez des questions à poser à nos. Ah, alors j'arrive avec mon micro. Hop là.
Vous pouvez la voir en grandeur plus grande avec celle qui est sur le diapo. Les 10 règles d'ordre.
Les 10 règles d'ordre.
Ah, vous voulez. Oui.
On va vous communiquer l'adresse mail d'Alexandre Chabran.
D'accord, il y a l'adresse. Ok.
Oui. Sur Internet, vous le trouvez. Vous avez.
Dans le micro, s'il vous plaît. Comme ça, on aura la réponse en même temps sur Internet.
Sur Internet, vous tapez les règles d'or du sport cardiologue. Et vous avez ce.
Il y a le site Internet en dessous, clubcardiosport.com. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Une question là, Francky.
Je vais essayer.
Alors, est-ce que tous les problèmes vasculaires ont une incidence sur le cœur, c'est-à-dire impliquent des problèmes cardiaques?
Alors, tous les...
Vas-y.
Je vais donner mon point de vue de médecin vasculaire et Luc répondra après. Les problèmes artériels peuvent avoir une incidence sur le cœur. Oui, les problèmes artériels des jambes, au niveau des artères des jambes, les problèmes artériels au niveau des artères des carotides, les artères, pas les veines.
Bref, quand vous avez un problème d'artère, périphériques, les artères de jambes en l'occurrence, ou les artères carotides, les artères du cou, il faut évidemment faire le bilan pour voir s'il n'y a pas les mêmes atteintes, les mêmes lésions sur les artères coronaires, les artères du cœur, hein, puisqu'il y a très souvent des patients qui ont les trois sites atteints, carotide, cœur, artère de jambes. Donc il y a un lien entre tout ça, parce que c'est les mêmes causes qui créent les mêmes problèmes. Hein. Alors ben, il y en a qui ont de la chance et qui n'ont qu'un secteur atteint, et puis d'autres qui ont un peu moins de chance ou un peu plus de problèmes, qui ont moins respecté les règles d'or du docteur Chabrin et qui ont une atteinte plus diffuse. Et après, sur les veines, ben, les veines, c'est surtout si vous faites une phlébite, vous risquez de faire une embolie pulmonaire, et là, en l'occurrence, le cœur, effectivement, est à l'ouvrage et risque d'en prendre des conséquences.
Merci. Question, monsieur ?
Oui, quel rôle exact jouent les bas de contention dans le cadre d'une maladie cardiaque ?
Dans le cadre d'une maladie cardiaque ?
Les bas de contention. Bas de contention. Luc.
Ne vous disputez pas le micro, s'il vous plaît.
C'est un sujet de dissertation, effectivement. Alors, si on parle de maladie cardiaque, non, mais sur les patients qui ont fait des phlébites, c'est-à-dire des caillots à l'intérieur des veines profondes de jambes, effectivement, le fait d'avoir une contention veineuse va essayer de faire en sorte qu'il y a moins d'insuffisance veineuse après ces problèmes de phlébite. Ça a un rôle de tuteur, en quelque sorte. Hein, ça maintient un petit peu la paroi de la veine et ça évite qu'il y ait une stase, un ralentissement du sang à l'intérieur des veines qui crée plus facilite, en tout cas, la formation de caillots. Donc c'est à la fois une prévention sur la prévention de caillots et puis une prévention par rapport à l'insuffisance veineuse. L'insuffisance veineuse, c'est quelque chose qui arrive à bas bruit, progressivement, très longtemps, très chronique, et puis qui finit par détériorer la peau et créer des ulcères de jambes qui sont difficiles parfois à traiter. Si tu veux ajouter quelque chose, Cécile ?
Oui, je voulais juste ajouter au niveau de la compression, la contention. On l'utilise aussi également chez les gens qui sont hospitalisés, qui sont alités en prévention. C'est-à-dire où les gens qui vont avoir une opération et qui sont hospitalisés, on leur dit bien maintenant de venir avec leur bas de compression pour les mettre juste après l'intervention pour justement éviter de faire une phlébite.
J'aurais juste une remarque à faire à propos des bas de contention ou de compression, à savoir qu'à l'endroit où se termine le bas, ça fait un garrot. Et alors je me pose la question, quel est le bienfait des bas de contention voilà. Qui font garrot ?
Alors, à quel endroit vous dites ? J'ai pas compris.
Voilà.
Alors,
pour ceux qui sont à l'arrière, c'est en haut du bas.
C'est soit que la chaussette est trop courte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à votre taille, mais normalement, ça ne doit pas faire garrot. Si la chaussette est... C'est surtout une question de hauteur. Donc, c'est souvent, quand ça fait garrot, c'est que la partie haute n'est pas bien positionnée. Et donc, les mesures sont pas correctes.
Monsieur dit que ça fait 25 ans qu'il cherche la bonne taille.
Ah ouais, ça c'est le problème.
Alors après, il y a des morphologies aussi particulières qui nécessitent qui nécessitent une compression sur mesure. Maintenant, les compressions sur mesure se font, donc faut savoir que ça existe et peut-être que c'est ce qu'il vous faudrait.
Ah bah allez-y, je vous donne.
Vous avez parlé de 10% d'échecs. Pour l'intervention au laser sur les veines, pour l'opération.
Oui.
Est-ce que vous pouvez me dire là où les causes des 10% donc, de ces échecs ?
Alors, la solution, si c'est une chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire le stripping. Après, quand il y a des échecs, c'est souvent que c'était des varices très compliquées, parce que si on a des varices qui sont trop tortueuses ou des varices qui sont trop importantes... Il faut savoir qu'il faut mieux choisir une chirurgie conventionnelle. Après, certaines fois, le laser ou la radiofréquence vont fibroser, on va dire, la partie principale de la veine, mais il peut rester quelques varices après qui seront soit traitées par sclérose par le médecin vasculaire, sclérose si on vous fait des petites injections dans les varices, soit traitées par ce qu'on appelle des phlébectomies. C'est-à-dire les phlébectomies, on vous fait des petites incisions au niveau de la peau et on retire les veines qui restent.
Si je comprends bien, un des échecs, ça peut le diamètre de la veine qui
voilà.
est trop large.
Non, les techniques endovéneuses, ce sont pour des varices qui font moins de 12 mm. Ou alors, par exemple, les gens qui ont des varices trop tortueuses, c'est pareil, le guide n'arrive pas bien à passer. Donc il faut quand même que ce soit des choses assez rectilignes. Ça fait partie des échecs de ces techniques, on va dire.
Ok. D'autres questions ? Là.
Concernant les anticoagulants, il y a toujours les deux possibilités quand on est sous Préviscan, sans faire de pub. Est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut passer à l'autre ?
Si vous êtes sous Préviscan et que vous êtes bien équilibré sous Préviscan avec un INR correct, il n'y a pas de raison de changer de médicament.
À propos des outils. Oui, je sais, je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas. Juste parce que je veux réagir par rapport à ce qu'on dit, parce que j'ai une autre question qui concerne les anticoagulants. Personne qui dit on sait que les fruits et légumes seront recommandés pour la santé, mais interdit aux patients sous anticoagulants, que faire ?
Alors, d'abord, ce n'est pas tous les fruits et légumes, c'est que certains. Et il a été prouvé récemment qu'on n'était plus obligé de faire des régimes particuliers. Alors, pour les nouveaux anticoagulants oraux, ceux dont je vous ai parlé, il n'y a aucun régime particulier à faire. Alors pour les antivitamines K, il y a certains légumes qu'il faut éviter, mais ce n'est pas non plus des régimes draconiens. Ça, on a oublié un petit peu.
Okay. C'est-à-dire qu'il y a surtout des patients qui vont très souvent fluctuer, et vous pouvez avoir dans la même famille ou dans la même maison, on va dire, hein, qui mangent la même chose, des gens qui vont fluctuer sur leur efficacité du Préviscan, pour ne pas le citer, et puis le conjoint ou la conjointe qui vont avoir mangé à peu près les mêmes choses, qui ne vont pas fluctuer. Donc il y a une variabilité, une sensibilité individuelle vis-à-vis de tous ces régimes ou ces interactions de médicaments qui n'existent pas avec les nouveaux anticoagulants. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de surveillance, en tout cas que la surveillance n'est pas la même.
Merci.
Enfin, il ne faut pas oublier quand même que avec les nouveaux anticoagulants, vous avez 50% de risque en moins de faire une hémorragie intracérébrale. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans le cadre de la prévention, ou en tout cas de la surveillance de ces traitements, d'efficacité de ces traitements. C'est que sur cette complication qui est évidemment extrêmement redoutable, parce que si vous faites une hémorragie intracrânienne, le pronostic est très sombre, et vous pouvez avoir un antidote ou pas d'antidote, le pronostic est le même. Ce qu'il faut, c'est éviter d'en faire. Donc quand vous prenez un nouvel anticoagulant oral direct, eh bien vous avez 50%, quel que soit le nouvel anticoagulant direct. Toutes les études montrent ça.
Ok. Précision.
Oui, je rajouterais juste que le souci... Alors les nouveaux anticoagulants oraux directs font moins saigner, c'est certain. Le souci qu'il y a avec les antivitamines K, donc on va dire les plus anciens anticoagulants, c'est que les gens sont très souvent mal équilibrés. Donc c'est sûr que ça fait plus saigner. Mais souvent, c'est que les gens ne sont pas dans une fenêtre thérapeutique correcte. Et c'est le grand problème qu'on a en France, contrairement à des pays comme la Suède ou autres, où les gens sont beaucoup mieux équilibrés dans leur traitement. Donc c'est vrai que les AOD, enfin les anticoagulants oraux directs, font moins saigner. Mais les gens sous antivitamine K, il faut qu'ils soient aussi mieux équilibrés. Il y aura moins d'accidents.
Madame.
Moi, je voulais revenir sur les chaussettes de contention. Est-ce que c'est utile d'en mettre quand on fait, par exemple, de la course à pied, en prévention ?
Je réponds. Il y a beaucoup de sportifs qui mettent des chaussettes de contention maintenant. Alors, le problème, c'est que souvent, ils le mettent pour faire le footing. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le mettre, c'est après. Hein, c'est pour améliorer la récupération, éviter les thromboses après l'effort. Voilà. Mais pendant, c'est pas très utile. Hein. C'est joli, mais bon.
Mais c'est marqué sur les chaussettes qu'il faut les garder après.
Oui, il faut surtout les mettre après, en fait. Hein. Okay. Si vous les avez, vous les gardez. Mais bon, pendant, c'est pas très très utile. Ça n'améliore pas la performance. Vous courrez pas plus vite.
Ok, merci.
J'arrive.
Oui, dans le cas d'un parent qui a fait une rupture d'anévrisme de l'aorte, il faut voir son cardiologue tous les combien ?
Alors, est-ce que c'était un anévrisme ? Enfin, pour moi, je parle d'anévrisme de l'aorte abdominale. Hein. Est-ce que c'était un anévrisme de l'aorte abdominale ?
Oui, abdominale, oui, de l'aorte. Il est mort sur le coup. Hein.
Et c'est un parent proche ?
Arrière, grand-père.
ben vous pouvez bénéficier d'un dépistage, déjà pour voir si vous avez un anévrisme ou pas. Il faut que vos frères et sœurs, si vous avez des frères et sœurs, bénéficient aussi de ce dépistage.
L'hérédité est un facteur.
Oui, un gros facteur.
Question ?
Je vais tenir le micro. Oui, ce n'est pas une question, c'est par rapport aux 10 règles d'or réservées un petit peu aux sportifs, donc aux gens relativement jeunes. Je voudrais signaler à l'assistance que, indépendamment de ces activités, il y a aussi le, pour ceux qui sont soit victimes donc de maladies cardiovasculaires, soit préventivement, soit après, il y a des activités sportives qui peuvent être faites dans un contexte relativement favorable dans le cadre des clubs Cœur et Santé. Hein, et donc nous avons deux clubs Cœur et Santé, enfin régionalement à Poitiers et à Saint-Julien-l'Art. Et vous avez dans vos dépliants une petite documentation à ce sujet-là. Et donc nous sommes à votre disposition pour vous aider donc à retrouver une activité physique ou l'entretenir. Sachant que c'est une activité physique qui est encadrée par des kinés et qui est surveillée par un cardiologue référent. Merci.
Pardon. On me demande, même s'il n'y a pas de facteurs à risque comme le tabac ou le surpoids et d'autres, faut-il se faire suivre et à partir de quel âge ?
Alors ça, par exemple, cette question peut se regarder par l'intermédiaire du sport. Les recommandations, en fait, simples, c'est qu'au-delà de 35 ans, en cas d'activité physique intense, d'ailleurs c'est ce que propose le club de cardiologie du sport, il est licite de voir un cardiologue. Après, en l'absence de facteurs de risque et sans pratiquer un sport particulier, il n'y a aucune recommandation particulière, en l'absence de symptômes, pour voir un cardiologue. Après, c'est les habitudes du médecin, c'est quand même le plus souvent l'existence dans la famille d'éléments, d'infarctus, d'attaques, de morts subites qui font faire réaliser un bilan systématique. Voilà pour ma réponse.
Merci.
Très bonne réponse.
Une excellente.
Apparemment,
je vous remercie.
On est unanime pour dire que c'était une très bonne réponse. D'autres questions ? On me demande quels sont les signes avant-coureurs d'un problème cardiovasculaire ?
Je commence. En fait, les signes avant-coureurs, on sous-entend les signes qui ne sont pas des signes évidents d'attaque, par exemple, de grandes douleurs dans la poitrine. Alors, par rapport à l'activité physique, ce qui doit alerter, c'est des signes tels que un essoufflement inhabituel, une baisse brutale de performance, et bien évidemment tout ce qui est douleur thoracique, essoufflement, palpitation, malaise, syncope. Tout ça, c'est des signes que le médecin connaît bien. Donc avant-coureur, je dirais ça. Pas des signes forcément très inquiétants, mais qui doivent quand même amener à une consultation auprès d'un cardiologue. D'abord auprès du médecin traitant, et ensuite auprès du cardiologue.
Et puis il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc vous fumez, vous prenez du tabac. Le moindre signe qui peut être amené à un problème cardiovasculaire, que ce soit des crampes quand vous marchez parce que vous faites de l'artérite, des douleurs dans la poitrine parce que quand vous marchez, ça fait mal dans la poitrine, des palpitations, des syncopes. Déjà, vous êtes fumeur. Si en plus vous êtes diabétique, si en plus dans votre famille il y a des problèmes de coronaire, d'hypertension, d'artérite en général, eh bien il ne faut pas hésiter et il faudra aller. Donc effectivement, c'est chez votre généraliste qui fera un peu le tri de tout ce que vous lui racontez. Ensuite, vous allez probablement voir le cardiologue et puis on fera les explorations en fonction. Par contre, si c'est une douleur thoracique inhabituelle que vous n'avez jamais ressentie, qui dure plus de 5 minutes, 10 minutes, 7, 15, Et là, on ne passe pas par le biais généraliste, cardiologue, puis hôpital, parce que là, vous allez arriver, le cœur sera déjà en grande partie mort et on ne pourra rien faire de plus. Hein. Sinon, donnez la parole au professeur Corby qui vous mettra une pompe externe. Mais là, c'est un petit peu dommage pour quelquefois trois quarts d'heure, une heure de perdu. Hein. Ça se joue en termes de minutes, tout ça. Hein. Donc, toute suspicion d'infarctus, c'est le 15. Et vous ne vous ferez pas engueuler, si je peux me permettre, par le réanimateur, le régulateur plutôt. Hein. Il faut passer par là parce que c'est ça le plus important.
Pour quelqu'un qui a des stents, combien de temps, au bout de combien de temps les coronaires se reforment et est-ce qu'on peut demander une vérification ?
Pour les stents, le stent est incorporé dans la paroi. C'est ce qu'on voit avec les petites images là d'OCT que je vous ai montré en jaune-orangé, là où on voyait les mailles du stent. Elles sont incorporées maintenant dans la paroi en maintenant entre un mois et trois mois, on va dire. C'est beaucoup plus rapide qu'avant parce que c'est les mailles sont plus fines, donc il y a moins de métal à incorporer et le médicament qui est dessus ne retarde pas la cicatrisation. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Après, on ne fait pas de vérification, si ce n'est la vérification, c'est est-ce que vous ressentez de nouveau des symptômes comme il y avait avant la pose du stent ? Et puis sinon, c'est par l'intermédiaire de votre médecin, du cardiologue qui en général vous revoit régulièrement, notamment après un stent, mais il n'y a pas de revérification. Surtout que pour vérifier, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est soit de temps en temps le scanner qu'on peut faire, soit la coronarographie, si on veut vraiment vérifier la perméabilité du stent. Si on veut savoir si le cœur souffre ou pas, on fait des tests d'effort tout simplement. Et ça, nos cardiologues de ville le font très très bien. Et puis à partir de là, on peut suspecter ou non un problème sur ce stent.
Il n'y a pas de contrôle technique obligatoire tous les deux ans.
Il n'y a pas de contrôle technique opératoire systématique pour les stents. Vous savez, les stents maintenant... Le risque que ça revienne à l'intérieur du stent, c'est de l'ordre de 5-10%, hein, pas plus. Donc on n'est plus aux 50 ou 60% de bons résultats qu'il y avait auparavant. Ça a nettement évolué dans ce sens-là.
Parfait. Alors on va prendre les dernières questions. J'arrive, monsieur.
Oui, concernant les contrôles que l'on peut faire chez le cardiologue, souvent annuellement, je pense, quel est le système le plus fiable pour être sûr qu'il n'y a pas d'aggravation, qu'il n'y a pas de problème ? Est-ce que c'est le vélo ? Est-ce que c'est le tapis de marche ? Y a-t-il quelque chose qui est plus conseillé que d'autres ?
Alors, quel est le plus fiable ? C'est pas très simple de répondre. En fait, là, la question concerne en fait le suivi d'une maladie cardiovasculaire chronique, quand on a des stents, par exemple, ou de l'angine de poitrine, et qu'on voudrait dépister quelque chose qui apparaîtrait avant qu'il y ait des symptômes. Donc ça, c'est effectivement le but du suivi cardiovasculaire. C'est de... parce qu'une fois qu'il y a des symptômes, c'est pas très compliqué. Hein. Les symptômes, on fait des examens... On va voir ce qui se passe, on fait une coronarographie. Le but, c'est avant qu'il y ait les symptômes. Donc, vous parlez du test d'effort, c'est effectivement un des examens que l'on fait environ une fois par an pour les patients qui ont une maladie coronaire. Après, le vélo et le tapis de marche, en fait, la question, le tapis de marche, nous, on fait quasiment que en vélo, simplement parce que les patients les plus âgés ne pourraient pas faire un effort significatif et en tout cas sans risque sur le tapis de marche. Globalement, le tapis de marche, c'est réservé entre guillemets aux jeunes, aux sportifs, mais dans le suivi courant, le vélo suffit pour avoir les informations et est beaucoup plus sûr comme examen. Donc une fois par an, voilà, le test d'effort une fois par an, c'est quelque chose qu'on fait couramment.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? C'est votre dernier mot ? Bon. Eh bien, merci alors. Merci à vous tous, merci à vous toutes, merci à nos intervenants. Vous applaudissez. Merci à l'équipe technique de Mendès France, merci à l'équipe d'accueil et d'organisation de Mendès France, puisque c'est la dernière de l'année. Merci Christine, entre autres. Au CHU, à toute l'équipe de communication, Stéphane Marais qui est présentant la salle, Vanessa et Aurore également qui sont là. Merci à vous. Qui j'ai oublié? Personne. Juste à penser, vous, bien sûr. Bah si, merci d'être là chaque année aussi nombreux, plus nombreux. Qu'est-ce que vous dites? La prochaine conférence? Non, je ne l'annoncerai pas. Non. Je voulais d'abord vous demander de remplir vos formulaires. Vous n'oubliez pas, bien sûr, le questionnaire de satisfaction. Et puis, il y aura une prochaine fois, bien évidemment. Le prochain rendez-vous, c'est le 2 février, donc vous pouvez le noter. Et nous, alors c'est pas le thème exact, hein, mais je vais vous donner juste la thématique. Nous parlerons des pathologies du sein sur ce rendez-vous.
C'est du thorax encore.
Du thorax. Et au mois d'avril, pathologie de l'œil. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'œil. Voilà donc les deux prochains thèmes pour février, le 2 février, le prochain rendez-vous. Et avril, vous aurez la date très prochainement. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci.